De Jérusalem à Ramallah avec Christine Zayed.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Tu as choisi de voyager dans une nuit au clair de lune, abandonnant mon cœur à terre, aussi brillant qu'une épingle en argent. Pourtant, j'espère que tu l'accrocheras à tes cheveux. Ces mots masqués par le clair de lune viennent d'une langue pleine de sang, pleine de diamants aussi, cette langue arabe palestinienne parlée et chantée par Christine Zayed. Comment chanter la Palestine depuis le 7 octobre ? Cette histoire christique commence à Jérusalem, elle se poursuit au conservatoire de musique Edward Said à Ramallah, entre violon et qanoun. Vous savez, cette sitar qui a si joliment orné le monde arabe depuis la nuit des temps, depuis les mille et une nuits. Aujourd'hui dotée d'un master en musicologie et tout en étudiant les répertoires grecs, turcs, arabo-andalous, algériens et tunisiens, au conservatoire d'Edgar Varès de Gennevilliers, c'est près de Paris, Christine Zayed sort son tout premier album intitulé « Kamakuntu », Comme j'étais. C'est un petit peu comme un esprit d'innocence qui pourrait démarrer sur une petite valise avec les sons de l'enfance. Mais quels sont ?
Vie.
Vie. Comme. Valise sonore.
Le son du vent jouant avec les feuilles de figuier et ma petite balançoire dans le jardin arrière. La voix de ma mère. Les films arabes qui passent à la télé en arrière-plan. Des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. Des cerfs-volants et beaucoup de soleil et de brise. Le silence du ciel bleu. Quand il n'y a pas de bombardement ni des hélicoptères qui passent. Mon frère, Bassel, qui chante et joue du oud dans sa chambre à côté. La voix de ma grand-mère lorsqu'elle arrive de Jérusalem. Mon autre grand-mère qui jardine. Les oiseaux et les insectes de la montagne au printemps. Mes pas rapides lorsque je courais pour cueillir ma fleur préférée, le coquelicot. Les soirées de musique à la maison. Se réveiller au son lointain de la prière avec le nostalgique maqam ou mode kurdi.
تبعثر يا حب الرمان انت منا لماك تبعثر يا حب الرمان يا البرازاني ستك شايل سمك قلبي بيحبك ستك شايل سمك يا البرازاني
Thank you.
premier album de Christine Zayed sur RFI et dans un en sol majeur où je tiens exceptionnellement à saluer la présence de mon attachée de production préférée, Caroline Filliette, qui aura tout managé d'une main de maître durant 15 ans d'en sol majeur, c'est-à-dire les invités qui arrivent en retard, les idées d'invités atypiques mais qui racontent tellement bien notre monde, les missions à l'extérieur qui se font ou qui ne se font pas, mes angoisses, les siennes, et puis surtout ce mélange de fidélité et de discrétion qui est une vertu cardinale d'une belle âme. Caroline quitte en sol majeur pour d'autres aventures sur RFI. Tu sais que je te regrette déjà, ma Carox, mais je voulais en informer les auditeurs qui savent que par ici, on a toujours été une équipe. Bon vent à toi et merci pour tout, ma Carox. Bonjour Christine Zayed.
Bonjour.
On vient d'ouvrir votre en sol majeur avec un titre de votre tout premier album intitulé « Kamakuntu ».
Comme j'étais. Kama en arabe c'est comme et kuntu j'étais.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce « comme j'étais » ?
Alors cet album raconte beaucoup de tableaux de ma vie, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui.
Oui, donc c'est le temps d'avant, mais alors le avant vous le situez quand ?
Le avant c'est aussi maintenant.
Oui.
En fait, par exemple, l'album commence avec un morceau qui s'appelle « Jeudi 16h53 ». Et ça, c'est l'heure de ma naissance, où j'ai failli mourir, et ma mère aussi. Mais j'ai insisté, j'ai continué.
Alors, on vient d'écouter à l'instant ce morceau, « Roman », que vous traduisez par ?
Grenade.
Grenade. Mm-hmm. Donc justement, comme je ne suis pas arabophone, j'ai lu la traduction en anglais, je me disais que c'était peut-être un texte autour d'une Palestine métaphorique, mais en fait pas du tout.
Un petit peu. En fait, Roman, c'est une chanson symbolique. Roman, ça signifie l'amour à la fois, le charme de cette fruit rouge, jolie, on peut dire. Et en même temps, ça signifie aussi les bombes. Dans les symboles du texte, en fait, comme on parle de basilic, des grenades, du café, chaque symbole, à chaque fois, signifie la résistance aussi.
Oui, et c'est un questionnement qui résonne d'autant plus depuis le 7 octobre.
Oui.
Cette balance entre résistance ou amour, c'est une question.
Oui, c'est très dur de répondre à cette question, parce que je sens qu'on est... pas mal censuré, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire, si on commence à parler de la résistance, il peut aussi avoir des autres étiquettes. Et on n'a pas vraiment la liberté d'aller plus loin.
Un petit son téléphone de l'appel du Mouedzin enregistré il y a quelques jours, Christine Zayed, par votre famille qui est à Ramallah. Ce Ramallah qui aujourd'hui est sous tension, bien sûr, mais le Ramallah, capitale de la Cisjordanie, que vous avez connu dans les années 90, puisque vous êtes née en 92, hein, de mémoire, ce Ramallah, il ressemblait à quoi quand vous étiez petite ?
Il ressemblait à la vie, en fait. La nature, les pins, les cyprès, les pommes... les amis, la famille, la musique. Je ne sais pas quoi dire de plus, en fait.
Il manque juste les vendeurs de pain et la vendeuse de fromage, hein, très tôt le matin. Ramallah reflète les limites du Paris des accords d'Oslo de 1993, qui rêvait d'instaurer un État palestinien dans les frontières de la ligne verte de 1949, malgré la colonisation israélienne. C'est ce qu'on peut lire sur le site de Sciences Po. Vous qui avez grandi entre Jérusalem et Ramallah, quelle a été votre réalité de jeune fille palestinienne ?
En fait, mon enfance était très courte, parce qu'à l'âge de 8 ou 9 ans, on a eu la deuxième intifada, révolte. Et en fait, je me souviens que c'est là, à ce moment-là, que j'ai appris la différence entre le courage et le refoulement. C'est-à-dire, on était enfermés, on a eu une petite expérience qui ressemble un tout petit peu à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
Oui, je rappelle quand même, seconde intifada, dans les années 2000, elle a abouti à la construction du mur de séparation israélien le long de la ligne verte. Alors les chiffres, il y a eu 1000 morts côté israélien, 3000 morts côté palestinien. Donc vous étiez adolescente en fait, hein ?
Même pas.
Même pas ?
En fait, de mes souvenirs, j'ai vécu une enfance jusqu'à cet âge-là qui était très belle, entre Jérusalem et Ramallah encore une fois, parce que ma mère, elle vient de Jérusalem, et moi, plus tard, j'ai eu la carte d'identité de Cisjordanie. C'est la loi israélienne qui disait ça à l'époque, avant 1981. Et en 1982, ils ont décidé que les enfants prennent la carte d'identité de leur père. Et mon père vient de Cisjordanie, il vient de Ramallah. Du coup, vers l'âge de 15 ans, je ne pouvais plus aller à Jérusalem. Il me fallait un permis. Et des fois, on ne me le donne pas.
Donc votre parcours était quadrillé?
Tout à fait. Et en fait, pendant cette intifada, il y avait un vide énorme. On était enfermés pendant 2 mois, il n'y avait pas d'électricité, des fois il n'y avait pas de la nourriture. Et je voyais mon frère en train d'écrire son premier album avec la lumière de bougie.
Alors vous parliez de votre père, qui est cisjordanien, il est aussi militant du Fatah.
Il était. Activiste, on peut dire.
Ouais. Alors concrètement, ça voulait dire quoi?
Fatah de l'époque, oui. C'est des gens bienveillants qui voulaient vraiment aider la société palestinienne, qui visitaient les familles qui n'avaient pas vraiment, par exemple, de l'argent, qui étaient en galère. C'était plutôt ça, en fait. Je ne sais pas comment...
Oui, vous le dites bien.
Oui.
Le Fatah qui souhaitait une solution à 2 États.
Ah. Le Fatah, oui, mais mon père, je ne sais pas. Il ne nous a jamais parlé de ça parce que depuis 2005, il est en état de dépression un peu. Il est très déçu, il est très...
Alors déçu par quoi?
Par tout ce qui s'est passé après, en fait. Déjà depuis Oslo et la Palestine en général.
Depuis la mort de Arafat?
Oui.
Et l'arrivée de Mahmoud Abbas?
Tout à fait.
Christine Zayed, vous diriez que vous avez été élevée dans le nationalisme arabe. Ça pose la question de quel ressenti pour Israël?
Ouf. Très dur comme question. En fait, je n'ai pas connu des Israéliens dans ma vie. J'ai connu des Israéliens que je respecte par des livres, comme Ilan Pappé, des historiens qui disaient la vérité à chaque fois. Mais des Israéliens, j'ai rencontré des Israéliens sur les checkpoints à chaque fois. Et je ne m'en rends pas compte. Pour moi, c'est un État qui m'a volé ma liberté de mouvement, ma liberté d'expression, ma liberté de tout en tant que musicienne. C'est hyper compliqué de voyager, de faire des concerts, de vivre normalement.
Bécédère en sol majeur. Et comme quoi on peut naître dans un pays occupé et au bord de la guerre et ne vivre que pour la musique, à moins que ce soit lié.
C'est sûr que c'est lié.
C'est vrai?
Ouais, c'est un échappatoire, c'est une façon de s'exprimer en fait quand on n'a pas d'autres moyens aussi. Pour moi, ça faisait partie de mon identité, j'ai grandi avec ça, donc c'est beaucoup plus que ça pour moi.
C'est quoi beaucoup plus?
C'est-à-dire, j'avais 3 ans et on avait déjà une salle de musique à la maison parce que mes 2 frères étaient musiciens et c'était une autre identité pour de vrai.
Et l'une des premières musiques qui vous a marqué, c'est ce fameux Mohamed Abdel Wahab qu'on écoutait là à l'instant, né au Caire,
yes,
en Égypte en 1902, juste pour donner un petit repère. Abdel Wahab que des oreilles occidentales peuvent aimer. Hein. Pour cause, ça s'entend dans sa musique. Pourquoi lui?
En fait, pour s'ephraser, la façon qu'il chante, les maqams, c'est un mode, en fait. Et c'est une gamme, mais c'est pas vraiment une gamme, c'est une couleur. On ne le traite pas dans la même manière que gamme majeure ou mineure. C'est plutôt des fragments, des tétras ou pent-out ou tricordes.
Ça y est, on est dans la technique. Ouais.
Donc, en fait, la façon dont il chante les maqams, elle est très unique, à mon avis.
Oui. Disons qu'il a été influencé par la musique occidentale, pour de vrai. Hein.
Oui. Oui.
Le tango, la musique classique.
Son ouverture, c'est ça qui m'a impressionnée aussi. J'étais petite.
Ouais. Petite, dans une maison pleine de musique, entre un père... votre père s'appelle Fares.
Fares, oui.
Ce qui veut dire...
Chevalier, en français.
Chevalier, ouais. Ouais. C'est pas mal.
C'est pas mal.
Pourquoi vos parents vous ont nommé Christine?
Ah, longue histoire. Alors, ma mère voulait pas me nommer Christine. Elle voulait Isis. Mais en fait, à un moment donné, on a eu cette visite de prêtre à la maison qui s'appelait Christophe. Et lui, il a proposé ce prénom et elle a apprécié.
Christine, donc élevée entre des parents qui ne sont pas artistes?
Ils ne sont pas artistes, non. Ils travaillent dans l'administration. Mais par contre, ma mère apprécie beaucoup la musique. Elle a une belle voix. Et c'est elle qui a découvert ça chez mon frère. Mon deuxième frère, bah, c'est le premier musicien dans la famille. Donc c'est grâce à elle qu'on est musicien, je crois.
Ouais. Pourquoi vous quittez la Palestine en 2014?
Pour faire des projets musicaux, pour étudier un peu plus, pour aller ailleurs.
Et pourquoi la France?
Pourquoi la France? Parce qu'à l'époque, c'est mon frère qui m'a conseillé, Youssef, qui était déjà ici. Il m'a dit qu'en France, il y a beaucoup de projets, les musiciens trouvent vraiment des projets, ils sont bien écoutés, les gens sont intéressés ici par tout ce qui vient d'ailleurs. Donc j'étais encouragée et je suis venue.
Et ça se confirme?
Oui, oui.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
Christine Zayed.
Ma clé de qanoun. La clé qui accorde mes cordes.
Ah oui, plus que le qanoun lui-même.
Le qanoun lui-même, c'est pas un objet. C'est un être vivant.
Ah,
il s'appelle Bilal en plus.
C'est vrai, vous l'avez nommé?
Oui.
C'est un être vivant pour
ouais.
vous.
C'est du bois. Et de la peau de poisson, et du métal. Et on parle, il joue, il me fait de la musique. Des fois, il n'a pas envie, donc il me bloque. Et quand je ne suis pas dans le mood, il le sent, donc il ne joue pas très bien.
Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que vous l'avez vu?
Magie totale. C'est pour ça que je l'appelle la boîte magique. Parce que vraiment, on voit une caisse de résonance, une boîte qui sort des sons. C'est vraiment magnifique. On pince un petit peu. Vraiment un petit peu, mais ça sort un son incroyable. Et la palette des couleurs aussi. C'est-à-dire, ça commence dans le grave et se termine dans l'aigu. Et les possibilités. Harmoniques, mélodiques et rythmiques. Et les notes, les microtons.
Est-ce que vous diriez que c'est l'ancêtre du clavecin?
Je ne suis pas sûre de ça. Mais non, c'est de la famille. C'est un cousin.
C'est un cousin?
C'est un cousin, ouais. Ouais. Parce qu'avant le qanoun, il y avait un instrument qui s'appelait le nuzha chez les Arabes. Et Nuzha, ça veut dire le voyage, et le Qanoun, ça veut dire la loi.
Magnifique, ça aussi. Quelle est son histoire, cet instrument, vous le savez?
Oui, on a des doutes si les origines sont assyriennes ou grecques. Par contre, chez les Arabes, il y avait Nuzha déjà. On pense que ça a été fabriqué et inventé pendant l'ère des Abbassides, 900.
Okay. Voilà.
Et Al-Farabi aussi, le scientifique, il a une histoire qu'il avait inventé cet instrument qu'on pense que ça ressemble beaucoup au qanoun. Et c'est marqué dans les textes qu'il a fait pleurer et rire les sultans, les gérants.
Comment chanter la Palestine depuis le 7 octobre? Est-ce que vous vous êtes posé cette question, vous qui sortez votre premier album?
Ah oui, en fait, j'ai déjà reporté cette sortie beaucoup de fois. Et je pense que la Palestine ne chante pas en ce moment parce que n'importe quelle note qu'on va faire, ça va être vraiment une fausse note et ça va rajouter au bruit qu'on a déjà. Les cris des enfants, ça couvre tout en ce moment. J'ose même pas chanter en fait, pour de vrai. Ça me semble très égoïste si je fais ça en ce moment. En fait, quand on est dans un état de cortisol élevé comme ça, de stress, on n'est pas dans cet état de luxe de pouvoir vraiment faire de la musique. Donc, et la question, est-ce que aussi la musique peut servir à quelque chose maintenant.
Et pourtant, à l'arrivée, vous chantez un morceau intitulé « Ralemi ». Christine Zayed avec ce morceau Ralemi, que vous traduisez comment ?
Ennemi, amoureux, les deux, en même temps.
Qu'est-ce que vous dites dans ce morceau ?
Comment ça se fait que t'es mon amoureux, mon ennemi en même temps, et à qui je peux me plaindre en fait, à qui je peux parler de toi ? C'est une chanson d'amour pure.
Comment vous avez imaginé l'accompagnement musical ? De ce morceau.
En fait, ce morceau, c'est plutôt une composition de mon frère, de Basel. Vu qu'on a déjà le piano un petit peu, on a décidé de mettre aussi un peu d'accordéon et la bague la main, le saz électrique. Et en fait, après, j'ai remplacé la partie basse, grave, avec le qanoun. J'ai décidé de faire ça dans l'album parce que le canon, il a différents rôles dans cet album. Des fois, il fait la mélodie, des fois, il m'accompagne avec des accords, avec une grille. Et des fois, il fait juste la ligne basse.
Comment vous définiriez votre identité musicale ?
C'est entre musique arabe, classique, parce que j'ai aussi étudié la musique occidentale, classique occidentale, et un peu de jazz, musique traditionnelle, beaucoup de musique traditionnelle. Donc, c'est très mélangé.
Très mélangé. Vous êtes la Abdelwahab au féminin. On se détend. En tout cas, vous aimez, Christine Zayed, les phrasés et les ornementations de ce cher Mohamed Abdelwahab,
yes.
L'Égyptien dont on parlait tout à l'heure, mais pas que. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les musiques de films, et notamment celle-ci, signée Eleni Karindrou pour un film de Théo Angelopoulos, Eternity and a Day?
Yes. En fait, la musique de cinéma, c'est un truc que j'ai commencé à faire avec mes frères en Palestine. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le lien entre le son et l'image. C'est ce que j'ai fait aussi dans ma vie. L'année dernière, on a enregistré la musique dans un long métrage par un réalisateur français, Mathieu Baillargeon. Ce film s'appelait Un jeudi pour Darwin. En même temps, Eleni et surtout Théo Angelopoulos. Ce que j'aime déjà chez Théo, c'est le non-conformisme. Je pense qu'il a parlé beaucoup de traumas, des bordures, des checkpoints, des réfugiés, des douleurs de l'être humain, d'une façon très poétique. Et ce qui m'a impressionnée dans la musique de Eleni aussi, c'est qu'elle ne voyait pas vraiment le storyline. Elle n'était pas vraiment dans
l'histoire.
L'histoire. Ça, oui, mais aussi, en fait, elle suivait les mouvements, les couleurs, les frames, encore une fois, la caméra. Elle pouvait vraiment faire un zoom in, zoom out avec la musique, on peut dire.
Mais il ne faut pas oublier que le chaudron dans lequel vous avez grandi... diva turquoise, hein, c'est son surnom de la musique arabe, toujours pas détrôné hein, jusque-là, c'est Fairouz sur RFI. Alors Fairouz, j'ai l'impression que ma génération et les générations précédentes l'écoutent depuis des décennies. Mm-hmm. C'est la voix du monde arabe, elle est présentée comme ça. Pourquoi elle touche votre génération aujourd'hui encore, Christine Zayed ?
En fait, Fairouz, elle fait partie de notre vie quotidienne. Fairouz, c'est la voix du matin aussi. Si on sort, on va à un restaurant de falafel, foul, hummus, on trouve la voix de Fairouz là-bas. Elle est partout. Et vraiment, c'est une révolution de la musique arabe.
Ah oui, pourquoi ?
En fait, la façon dont les chansons de Fairouz sont composées, arrangées, c'était une façon... on peut dire nouvelle, en fait. On peut dire que personne ne l'a fait avant. Mm-hmm. Et la voix même, en fait, ça est devenu un élément de chaque jour, en fait, de chaque arabe, je peux dire même. Donc pour moi, c'est une évidence, en fait. Pour moi, c'est Fairouz.
Et puis elle s'est fait respecter aussi pour s'être abstenue de chanter dans les moments de guerre civile au Liban, pour ne justement pas être récupérée par un camp ou par un autre. Donc elle a une stature politique même.
Oui.
Malgré elle,
ouais.
Qui fait qu'elle est respectée par l'ensemble des Arabes, cette stature politique.
Tout à fait. Et le fait qu'elle dit rien, en fait. Mais elle laisse ses chansons parler pour elle.
C'est une force de ne pas dire, parfois.
Oui, oui.
Vous avez fait aussi des études de jazz, hein, Christine Zayed. Pourquoi ?
Un petit peu, parce que ça m'attire. Parce que c'est une sorte de liberté aussi.
Mais très très loin quand même de la musique arabe telle que vous l'avez étudiée, non ?
Pas très très loin. Non.
Pas très loin ?
Pas très loin. Je peux parler d'un petit détail en fait pour exprimer ça. Par exemple, la note de blues, on l'a beaucoup dans la musique arabe, dans certains maqams. Et la note de blues en fait, si on revient à la note sol maintenant.
La note dans sol majeur ?
Oui, parce que je voulais aussi rajouter cette histoire du mot nawa en arabe. Parce que dans la langue arabe, les notes ont des noms. Et la note sol, le nom de cette note en arabe, c'est nawa. Et nawa en arabe, ça veut dire soit l'éloignement ou la maison.
Ça peut être la définition de l'émission.
Tout à fait. Donc si on baisse cette note par un demi, ça nous donne cette note de blues. Et la note de blues dans le jazz, c'est la note de tristesse, de chagrin. Et dans certains modes en arabe, comme le mode saba, qui veut dire aussi chagrin, elle a le même fonctionnement.
Waouh.
Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here, and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes. I see in hers too. Now your eyes are.
C'est terrible hein, l'effet qu'il fait, ce Chet Baker, si ça pouvait éteindre la guerre, un morceau pareil. Pourquoi ? Qu'est-ce que vos oreilles, elles entendent dans ce morceau « Almost Blues » de Chet Baker ?
The blues dans le sens la nostalgie, le chagrin en fait, l'isolation surtout.
La fin de quelque chose.
Je peux le dire en anglais, c'est plutôt le surrender, de vraiment lâcher, de se dire « ok, c'est ça », d'accepter.
Est-ce que cette connaissance, évidemment, il y a presque la réponse dans la question, mais cette connaissance de musique de jazz, musique arabe, musique de film, ça vous aide à composer différemment ?
Oui. En fait, ça me laisse beaucoup plus de liberté, mais à la fois, ça devient aussi... Ça met des barrières, des fois. C'est difficile de faire des choix, des fois. Parce que dans la liberté, il y a beaucoup de souffrance aussi. Mais oui, ça m'a ouvert... l'esprit, oui.
Et puis il y a la musique pour vous, Christine Zayed, qui vient du cœur familial. m'avez prévenu, ça se passe en famille, hein, de ce côté-ci. Christine, présentez-nous ce musicien.
C'est Bassel.
Votre frère?
Bassel, mon frère, oui.
Bassel Zayed.
Exactement. Bassel est mon premier prof de chant et mon meilleur ami. Et c'est un grand musicien.
Quelle est sa grande qualité à vos yeux et à vos oreilles surtout?
L'empathie.
Et c'est important dans la musique?
Oui. Il y a des artistes qui font un énorme travail, des œuvres incroyables, mais sans empathie. Et là, ça devient très technique, très mécanique. À mon avis, je le sens comme ça. Et Bassel, il a beaucoup d'empathie et ça s'entend.
De l'empathie et une vision.
Bien sûr.
Quand je regarde ces titres, j'en ai pris deux, I See the Heaven ou encore Checkpoint. Il y a des messages subliminaux.
Ouais, Checkpoint, il parlait de Qalandia, le checkpoint entre Ramallah et Jérusalem, parce qu'il habitait à Jérusalem et il travaillait dans les deux villes. Et à la fin de compte, il a quitté, il est allé à Boston après beaucoup de galères, en fait, et il a perdu sa carte d'identité. Il ne peut plus vivre là-bas en tant qu'habitant de Jérusalem, en fait.
C'est bien d'avoir la légende du morceau. Merci, Christine. Alors, il y a la musique des mots, puis il y a aussi les mots de Michel Foucault.
Yes.
Important pour vous. Je vous ai ramené un court extrait d'un entretien qu'il donnait autour de son histoire de la folie.
Moi, ce qui m'a, une des choses qui m'a intéressé, c'est de savoir, au fond, à partir de quand est-ce qu'on s'est mis à écouter ce que disaient les fous. Et ça, ça a été très tardif. Par exemple, je me souviens avoir lu pas mal de livres du XVIIIe siècle, au moment où tout de même la médecine commençait à bouger. Eh bien, quand on avait affaire à un fou, on regardait son pouls, on regardait son teint, on essayait de repérer des phénomènes de circulation, on appelait ça engorgement ou irritation, enfin peu importe. Quand un fou mourait, il y a eu des gens pour regarder leur cerveau de très près, une espèce d'anatomie pathologique avant la lettre. Un certain Meckel, par exemple, s'amusait à peser le cerveau des fous. Il avait cru reconnaître que certaines folies allégeaient le cerveau, puis il y en avait d'autres qui alourdissaient le cerveau, etc. Or, dans toutes ces recherches sur la folie, il y avait toujours une chose qui manquait. Jamais on n'écoutait ce que le fou pouvait dire. On n'avait pas du tout l'idée que dans le discours du fou pouvait se cacher l'essentiel de la folie. Or, c'est bien pourtant à partir du discours du fou que l'on fait le partage. Le fou, c'est pas celui qui se reconnaît à première vue, c'est celui qu'on reconnaît à première entente.
En 73, au micro de Radio-Canada, donc Michel Foucault dans votre En sol majeur, Christine Zayed, qui s'y entend hein, sur la question de la folie. Vous retenez quoi de sa pensée?
En fait, Michel Foucault, il est lié à la période quand j'ai fait mes études en psychologie, philosophie et sociologie en Palestine. Parce que j'ai fait un double majeur là-bas. Donc j'ai retenu quoi? J'ai toute cette vision, quand on dit le fou, le fait qu'on ne peut pas accepter qu'il y a des spectres, en fait, des cerveaux humains ou des façons de sentir et voir les choses. Et c'est pas la folie, en fait. C'est juste un autre type d'intelligence et un autre type de
sensibilité.
De sensibilité, comment on aperçoit ou on reçoit la vie.
Et puis, ne dit-on pas que le fou de quelqu'un est le sage de quelqu'un d'autre?
Mais oui.
Est-ce qu'il peut y avoir, encore une question difficile, Christine, auquel on ne peut pas échapper, mais est-ce qu'il peut y avoir un lien, une résonance, on dira, entre ces travaux de Michel Foucault sur la folie et la situation vécue dans les deux camps du Proche-Orient?
Oui, parce que en fait, ça touche à des choses, c'est primitif en fait. C'est un problème d'identité, c'est un problème de survie aussi.
La folie, vous voulez dire?
Non, je veux dire
ce qui se passe
depuis toujours là-bas. Et la dogme aussi, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut vraiment croire qu'on a droit à quelque chose et on commence à tuer et à torturer et à vraiment... faire mal à l'autre.
Est-ce que la psychologue que vous êtes toujours un peu a repéré chez les Palestiniens notamment des comportements qu'on va qualifier rapidement de psychiatriques et qui seraient liés à cette situation, j'allais dire d'internement, mais d'enfermement en tout cas?
Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand je parlais de deuxième intifada, quand j'ai appris la différence entre le courage et le refoulement, on pense que c'est du courage, en fait. On refoule beaucoup.
Et on refoule la colère, vous voulez dire?
La colère, la tristesse, surtout la trauma, en fait, traumatisme. Et on vit tous avec la dépression et des syndromes de post-traumatisme. Et dès qu'on sort, comme moi par exemple, je suis partie il y a 10 ans, et c'est là où je deviens vraiment déprimée. C'est là où je sens le vide. Je vois les choses de loin. Maintenant, ça me fait peur.
Plus que quand vous étiez dedans.
Oui, quand je suis dedans, même maintenant, quand je visite la Palestine, quand je visite ma famille, je sens plus ça, en fait. Ça va. Parce que dedans.
من أنا لأقول لكم ما أقول لكم وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها.
Comment faites-vous découvrir à vos amis vos origines?
Chère Christine Zayed,
bonne question. D'abord par ma vie quotidienne, c'est-à-dire moi j'adore cuisiner. Et je fais des plats palestiniens tous les jours.
Par exemple,
maqloube, c'est une sorte de cake. Il y a des
feuilleté,
des étages, on peut dire,
oui.
Du poulet au four et puis des légumes frits, du riz, des épices. On mange avec du yaourt. c'est des plats traditionnels. Et en fait, par la musique aussi.
Quelle réaction vous rencontrez, vous le disiez un tout petit peu au début de cet ensoleil majeur, quand vous dites aux Français que vous êtes palestinienne?
Des fois, je ne me rends pas compte. Je n'arrive pas à comprendre les expressions. Des fois, j'évite d'être la victimisée. J'évite d'être dans cette image de « Ah, la pauvre !» Et j'évite d'être aussi la héroïne, en fait. À chaque fois, je veux bien dire, accepter que je suis un être humain comme vous, en fait. Je ne suis pas un extraterrestre.
Comment dialoguer depuis le 7 octobre entre Palestiniens et Israéliens? C'est évidemment toute la question à laquelle se sont attachés, notamment pendant quelques secondes sur France Télévisions récemment, Delphine Horviller, cette femme rabbin française, et Dominique Hédé, l'essayiste libanaise. Ça donne ça.
J'ai bien compris que vous aviez souffert de ne pas entendre toujours l'empathie que vous attendiez au lendemain du 7 octobre. J'ai aussi eu autour de moi des gens qui trouvaient ça atroce et qui ajoutaient ce « mais » qui vous rend malade.
Oui, c'est ce « mais » moi qui m'a rendue assez folle dans les conversations. Effectivement, il a été entendu partout. On a entendu après le 7 octobre, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est atroce, mais des femmes ont été violées, mais une contextualisation qui était atroce, inaudible. Mais il a été entendu partout, ce « mais », à tel point que c'est presque comme si ce mot, pour moi, était devenu banni.
Je comprends, mais alors voilà où nous risquons de diverger. Je comprends entièrement votre allergie à ce « mais ». Mais derrière ce « mais », il y a des voix qui se taisent depuis si longtemps à propos d'un immense déni. Ce déni, je le trouve chez des auteurs que j'estime et que j'admire beaucoup, qui sont ceux que vous citez, notamment, par exemple, Amos Oz. Quand vous le citez, Delphine, vous dites « ce sont deux conflits et deux causes aussi justes l'une que l'autre », et vous développez les raisons pour lesquelles et le peuple juif avait besoin au lendemain de la Shoah d'un pays où vivre et le peuple palestinien avait le droit au même titre, dit Amos Oz, que les Hollandais en Hollande, d'être chez eux. Mais la chute, c'est quoi? C'est « ah, mais les pays arabes n'en ont pas voulu et ils ont bien fait comprendre aux Palestiniens qu'ils n'étaient pas là chez eux ».
Mais pour moi, la question du déni, voilà, elle est évidemment partagé par tous. En fait, on sait bien que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est le fruit d'un déni, d'une incapacité de parler, d'une incapacité à reconnaître les responsabilités de tous. Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que, en fait, on appelle très souvent un camp ou un autre à sa pleine responsabilité, comme si l'autre était dans une innocence absolue, ou comme si tous les agissements de l'autre n'étaient que le fruit de son traumatisme ou de ce qu'il a vécu.
Etc. Donc on a la demande d'empathie d'un côté israélien, la reconnaissance d'un déni historique souhaité côté palestinien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en écoutant cette tentative de dialogue, Christine Zayed?
C'est vraiment une tentative, c'est pas un vrai dialogue, parce que je sens que Madame Hédé essaye de vraiment ouvrir une porte. Et Madame Orvilleur, elle est vraiment complètement fermée. Et ce déni dont elle parle, j'aimerais bien lui dire que ça nous a coûté notre vie, en fait. C'est pas juste un symptôme, en fait. Il y a des conséquences après ce déni. Il y a une dissociation, en fait. Il y a une séparation. Il y a un sentiment d'isolation qu'on sent ici ou ailleurs, qu'on n'est pas écouté et qui a absolument pas d'empathie envers nous.
Alors pour En sol majeur, vous avez eu la gentillesse d'appeler votre famille qui vit à Ramallah. On va entendre rapidement d'abord la voix de votre mère et puis ensuite la voix de votre sœur. Je pense qu'elle s'exprime sur leur ressenti depuis le 7 octobre et peut-être vous allez nous traduire leurs propos.
Alors, ce que ma mère a dit, c'était une phrase brève. Et quand elle dit ça, je sais qu'elle n'a pas de mots, qu'elle est vraiment dans un état de déprime, on peut dire, d'angoisse. Elle a dit « sab, ktir sab ». C'est très difficile.
7 octobre, كان وقت فاصل بحياتنا. كانت فترة كتير يعني صعبة. مرحلة دخلنا فيها وما كنا نعرف الوضع المظلم اللي راح نعيشه.
Ce que ma sœur a exprimé, c'est plutôt la vie des Palestiniens de Jérusalem, parce qu'elle habite là-bas. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que le 7 octobre, c'est une date marquante, parce qu'on n'était pas préparé pour cette période sombre.
طبعاً التفتيش صعب جداً الحياة صعبة جداً التنقل بين المدن صعب جداً.
On avait déjà des problèmes de liberté, de mouvement, mais maintenant c'est pire à Jérusalem surtout. La vie devient très difficile, c'est comme en prison. Bouger d'une ville à l'autre, c'est l'enfer. Ça prend des heures et des heures, même pour 16 kilomètres.
خاصةً إنه إحنا شعب واحد. المشاهد اللي بنشوفها صعبة. الأخبار اللي نسمعها كثير صعبة العنف اللي عم بصير كثير أصعب من إنه الواحد يتخيله أو يتوقعه الممارسات اللي على الأرض صعبة جدا جدا جدا.
Ce qu'on vit, c'est inadmissible et c'est surréaliste. Ce qu'on voit à la télé aussi et autour de nous et le peur qu'on sent tous les jours. Ça devient aussi plus dur pour les Palestiniens de Jérusalem, surtout parce qu'ils sont censurés, parce qu'ils sont en contact direct avec l'État d'Israël. En fait, autour d'eux, il y a des Israéliens. Voilà.
J'ai encore une question difficile. Christine Zayed, est-ce que vous... Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit dans la famille au lendemain du 7 octobre. Est-ce que vous diriez que les Palestiniens se sentent otages du Hamas ?
Non, pas du tout. Il faut savoir que les Gazaouis, ils sont contre cette idéologie. Et ils sont contre la violence. Ça, j'en suis sûre parce que j'ai beaucoup d'amis Gazaouis, surtout des artistes qui habitent en France et là-bas. J'ai perdu des amis et eux aussi, ils ont perdu de leur famille. Ce n'est pas de leur faute. Et non, en fait, ce qu'on a dit, surtout ma famille, c'est qu'on a peur de ce qui va venir, de la réaction.
Vous avez eu une phrase incroyable quand on s'est parlé pour préparer cette émission En sol majeur. Vous m'avez dit « on avait besoin d'un holocauste ».
Oui, en fait, c'est vraiment triste de dire ça, mais c'est comme si vraiment on avait besoin de notre propre holocauste pour que le monde se réveille et voit vraiment ce qui se passe en réalité. Malheureusement.
Merci. Shukran. Christine Zayed, merci. J'ose vous dire bon vent. On va se quitter avec une lichette de belle lumière à Autumn Song de Tchaïkovski. Thank you. Merci Christine Zayed d'être passée nous voir en sol majeur avec quelques effluves de votre premier album qui paraîtra prochainement, Kamakuntu. Un en sol majeur à retrouver en podcast sur Pure Radio et désormais chaque samedi puisqu'une diffusion du dimanche disparaît de RFI. Caroline Filiette, Théo Raison, Yasmine Chouaki, on se retrouve donc samedi prochain autour de Dorcy Rugamba. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.